Il est 4h, vous écoutez Phare FM, bon réveil, belle journée. C'est la radio Autrement avec vous dans la nuit Autrement et on est ensemble encore jusqu'à 5h.
La Bible dit:
n'érigez pas les gens en experts de votre vie en les laissant vous dire ce que vous devez faire. Gardez cette autorité pour Dieu. Laissez-le vous dire ce que vous devez faire.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
To stand at the door, just a day in your court, I'd never trade it, just to be close, close to your heart. I'd never trade it for elsewhere. A thousand days elsewhere. When I'm with you, it's better. When I'm in your love, my life is better. Doesn't matter how hard it gets, my God is lifting me up again. To lay at your feet, I'm amazed as you speak. There's nothing like it. Our worlds have collided. I wanna be lost, lost in your love. I can't live without it. I won't live without it. For elsewhere, a thousand days elsewhere. When I'm with you, it's better. When I'm in your love, my life is better. Doesn't matter how hard it gets, my God is lifting me up again. When I'm with you, when I'm in your love, my life is better. Doesn't matter how hard it gets, my God is lifting me up again. Life isn't easy, but it's so much better with you. Life isn't easy, but it's so much better with you. Life isn't easy, but it's so much better with you. Oh, no. Life isn't easy, but it's so much better with you. Life isn't easy, no, but it's so much better with you. Life isn't easy, but it's so much better with you. When I'm with you, it's better. When I'm in your love, my life is better. Doesn't matter how hard it gets, my God is lifting me up again. When I'm with you, it's better. When I'm in your love, my life is better. Doesn't matter how.
On the wall, I hear the song the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song.
Worry Child, Swedish House Mafia sur Phare FM. Eh bien oui, je conçois le réveil un peu dur comme ça de bon lundi matin. On est le 6 mai et là on est très très tôt, mais sans doute que vous devez aller travailler. Alors ouais, je vous souhaite un bon réveil, bon courage pour la journée. Je vous accompagne encore jusqu'à 5 heures dans la nuit autrement et puis ce sera Bonjour Chez Vous qui prendra le relais. Mais en attendant, quelques moments pour réfléchir. Pain de vie avec Jacques Beauvert, la parole du jour, mes fameux modes d'emploi un peu plus tard. Et tout de suite, de la musique de Young Escape avec Thank You. Et tout à l'heure, c'est Jacques Beauvert qui va nous parler de la maturité spirituelle.
Minuit 5 heures, la nuit autrement.
Avec Mireille.
Overwhelmed by the weight of my doubt, you give me something I can't live without. Joy and peace beyond understanding, your grace is the place where I'm ending. You are the reason I can't stop singing. You've
alone. It's so hard to smile when they all depending on you. I told God I can't go unless you coming too. But that's me though. I got the cheat code for when you lost like Nemo and got no remote. Sometimes life can get out of control, but you're not at it alone. You got the King of Kings calling. Go answer the phone and let's go.
De vie.
C'est Jacques Beauvert qui vous apporte maintenant un message spirituel.
Eh bien, j'aurais à cœur de partager avec vous le thème la maturité spirituelle. Alors, je citerai quelques textes de l'Écriture en rapport avec cela. Tout d'abord, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 14, l'auteur nous dit « La nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Un premier caractère, donc, de ce qui est appelé les hommes faits, ou on pourrait dire les personnalités matures, et le caractère, là, de maturité se manifeste par la capacité de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'apôtre Paul fait d'ailleurs cette distinction à un certain nombre d'occasions entre des choses fondamentales et des choses qui ne sont pas fondamentales. Il dira, par exemple, « Au point où nous sommes arrivés, eh bien, marchons ensemble. » Il y avait certes des approches différentes dans l'Église primitive, dans les églises qui étaient issus des païens et qui étaient fondés par Paul, qui se vivaient par exemple en Judée, dans les églises qui étaient directement issues de la synagogue et qui avaient été plus souvent fondées, entre autres, par Pierre, par Jacques et d'autres. Donc il y avait des différences. N'imaginez jamais que si vous étiez catapulté il y a 20 siècles, vous alliez dans une église à une place, puis ce serait exactement la même chose dans l'église à 40 ou 50 kilomètres. Déjà à cette époque, il y avait des différences importantes. Voilà. Alors je dis cela parce que on entend des fois « Oh, mais telle structure d'église n'est pas biblique ». Vous constatez que l'Écriture ne dit pas grand-chose sur bien des sujets qui sont en rapport avec l'Église. Vous n'avez aucun texte dans tout le Nouveau Testament qui vous dit exactement, par exemple, comment un culte doit être construit. Il ne vous dit pas qu'il faut une introduction, qu'il faut un moment de louange, qu'après il y a la Sainte Cène, puis après il y a la prédication. Par exemple, c'est une structure qui tient la route. Vous pouvez très bien imaginer un culte qui commence par la Sainte Cène. Si tout le monde est en bon état spirituel, et qu'il n'y a pas besoin de se remonter un bon petit coup par la louange, on pourrait commencer par la Sainte Cène aussi. Qu'est-ce qui nous oblige impérativement à forcément nous réunir le dimanche matin? C'est marqué où ça? Je constate qu'en Israël, c'est le samedi, parce que c'est le Shabbat. Alors que dans les pays musulmans, c'est le vendredi, n'est-ce pas? Donc, je prends simplement quelques des exemples comme ça, pour un tout petit peu peut-être secouer la poussière de nos traditions évangéliques et autres qui n'ont qu'une valeur en face de l'Écriture. L'Écriture est très souple dans tous ces domaines-là, comme d'ailleurs dans pas mal d'autres domaines. Colossiens 4:12. Tenez bon comme des hommes faits, on pourrait traduire mature de nouveau, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Un autre caractère qui est la capacité à obéir à Dieu. Et c'est vrai que c'est extrêmement important puisque obéissance vaut mieux que sacrifice. Et puis, il y a 1 Pierre 2, versets 1 à 2. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc il y a l'état, je dirais, de péché et d'immaturité, d'une part, et d'autre part, il y a la perspective de croissance. Et puis vous avez 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. Et je trouve l'attitude de Paul tout à fait remarquable. D'ailleurs, il le dit tout de suite dans la même foulée, le verset 4. Un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas tous des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et après, il développe là-dessus. Et puis, finalement, peut-être, Éphésiens 4, versets 13 à 14, où il dit ceci, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Donc c'est un processus de croissance d'arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Voilà quelques textes qui nous entretiennent donc de ce thème de la maturité. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce sujet est relativement peu traité ? Alors, je crois qu'il y a deux raisons. La première, elle est liée au vocabulaire. Au vocabulaire, en particulier, des traductions dont nous avons le plus l'habitude. Le Nouveau Testament, en fait, parle beaucoup de maturité. Il le fait avec des termes en grec de la racine « telos » qui signifie « fin ». Voilà. Et nos traductions ne montrent pas forcément cette pensée. Elles traduisent, vous l'avez vu, par « adulte », parfois même « parfait », ou bien alors elles utilisent même le mot « perfection ». Et là, c'est gênant parce que on sait que celui qui tend à la perfection tombe dans la dépression. Alors que l'idée du texte original, ce n'est pas tellement cette idée de perfection, en tout cas dans le sens où on l'utilise aujourd'hui, parce qu'il faut voir que le vocabulaire évolue, il évolue constamment, c'est pour ça qu'on fait toujours des nouvelles éditions des dictionnaires, parce que le sens des mots évolue avec le temps, ce n'est pas quelque chose d'un peu irréel et de toute façon impossible à atteindre qui nous est proposé. Quand Paul écrit aux Corinthiens « Tendez à la perfection », donc on risque d'entendre ces paroles comme une exhortation très théorique à quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, alors qu'on aurait avantage à traduire, et cette manière d'ailleurs qu'ont tendance à traduire les traducteurs aujourd'hui, « Tendez à la maturité ». Alors ça, c'est différent. Il y a une deuxième raison qui vient d'une tendance à parfois dissocier. Et ça, c'est une attitude qu'on trouve dans certains milieux chrétiens en particulier, la spiritualité du reste de la personne ou de la personnalité. Par exemple, il y a des milieux que j'ai connus où on considérait quelqu'un comme mûr spirituellement s'il avait une très bonne connaissance biblique et puis s'il savait bien parler des choses spirituelles, puis utiliser le bon mot à la bonne place. Alors, c'était quelqu'un qui était mature spirituellement. Eh bien, j'ai rarement rencontré autant de gens immatures que dans ces milieux-là, où on savait si bien citer les versets bibliques comme des boulets de canon, utiliser le bon mot à la bonne place, et puis où, dans la réalité des faits, je voyais tout autre chose de vécu que quelque chose de mature. Voilà. D'ailleurs, je vois mal comment quelqu'un, par exemple, de très immature psychologiquement, serait tout d'un coup très mature spirituellement. Je crois que l'être humain est un tout, et vous pouvez avoir mal aux dents. Si vous avez très très mal aux dents, vous aurez peut-être de la peine à louer Dieu le dimanche matin aussi. Parce qu'on est un tout, esprit, âme et corps, et que tout est lié. Et que notre foi, c'est Dieu tout entier pour l'homme tout entier. Définition. Alors, la maturité, c'est le résultat de l'achèvement de ces fonctions principales qui sont en relation avec notre âme, notre esprit, et ce sera la conséquence de la résolution des conflits de base. Il y a les signes de maturité. Alors, on a vu dans l'Écriture la capacité de discerner. Il y aura aussi l'initiative, il y aura la patience. C'était le fruit de la maturité chez Moïse. Il était devenu l'homme le plus patient de la terre. Mais il n'était pas à 40 ans. Hein? Il était à la fin du parcours, à 120 ans. Alors, c'était le fruit d'une maturation et c'était la manifestation d'une maturité. La capacité à négocier les frustrations. Paul parle des frustrations, parle de ce qu'il n'a pas toujours eu, des difficultés qu'il a rencontrées. Nous aimerions mieux que les choses soient comme ci ou qu'elles soient comme ça. Ok, mais je vais montrer ma maturité en voyant comment gérer. Je pense à une sœur chrétienne qui se trouve dans un milieu où on impose absolument comme condition et vous ne prenez pas la Sainte-Seine si vous n'avez pas un chapeau sur la tête. Parce qu'il est écrit que la femme se couvre quand elle prie dans l'église. D'abord, ce qui est paradoxal, c'est que dans ces mêmes églises, on interdit aux femmes de prier haute voix. Alors c'est vraiment le paradoxe des paradoxes. Il est dit que quand elle prie, elle devra avoir la tête couverte. Mais on leur interdit même de prier haute voix. Alors elles doivent quand même avoir la tête couverte. Enfin, elles comprennent qui pourra. Hein? Vous avez des églises où on se lève pour prier. Il y a des églises où on reste assis. Chez nous, on se lève pour chanter. Mais moi, j'étais dans des églises où on est assis quand on chante. Il y a des gens vraiment qui s'énervent sur des différences comme ça. Immaturité, incapacité de prendre du recul, alors que Dieu, lui, regarde au cœur. Vous l'exprimez, eh bien d'accord. Remarquez qu'entre nous, c'est un peu ridicule quand on chante « Je lève les mains vers toi » puis qu'on a les mains absolument collées au corps. On se demande un petit peu si on pense à ce qu'on chante. Mais après tout, si ça vous fait plaisir. Mais je crois que tous ces éléments-là, puis vous pouvez les multiplier maintenant dans votre tête, parce que vous avez vos propres exemples. Hein? C'est de l'immaturité, puis c'est tout. Il y aura aussi trois éléments qui me paraissent importants. Dans la maturité, ce sera à l'occasion la capacité d'être seul. Peut-être à l'occasion d'être seul son avis. Et ça, c'est pas facile. Il m'est arrivé d'être confronté à une meute de pasteurs en fureur et de maintenir contre vents et marées une position différente de la leur. Et après coup, j'ai jamais pensé que j'avais eu tort. Et je maintiens mon point de vue. J'ai été confronté dernièrement à une personne en fureur et je lui ai dit, eh bien, je revendique de m'exprimer. Ça te gêne, mais je le revendique. Je te reconnais le droit de t'exprimer ouvertement, mais je continue à revendiquer le mien de m'exprimer ouvertement aussi. Et la main, depuis, elle ne m'aime plus beaucoup. Elle me bat à froid, comme on dit. Mais de quel droit m'imposer de me taire? Je n'impose pas de se taire. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense, j'ai aussi le droit de le dire. Et je crois que ça, c'est aussi la maturité. Et puis, à l'occasion, la maturité, ce sera à se taire. C'est vrai aussi. Voilà. Capacité de gérer, capacité de canaliser aussi sa propre agressivité. Maintenant, je dirais qu'il y a un certain nombre de difficultés spécifiques à notre contexte pour atteindre ce que la Bible dit. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile? Eh bien, déjà, à cause de la mentalité du temps. L'adolescence, c'est l'âge privilégié de notre époque. Notre société a été qualifiée de société adolescentrique, c'est-à-dire centré sur un état d'immaturité et d'adolescence à tous les points de vue. Ce ne sont plus les jeunes qui sont censés s'identifier aux adultes, mais c'est les adultes qui devraient singer les jeunes. Donc les critères, qui ont été ceux quand même qui ont régi notre monde, grosso modo, depuis des millénaires, et aussi la pensée biblique, sont inversés. Je veux pas être méchant, mais je pense à un certain milieu dans lequel j'ai entendu, ben, tous les plus de 35 ans, ils nous cassent les pieds, qu'ils fichent le camp. Ben, ça a tellement bien marché qu'effectivement, ils se sont retrouvés le quart de ce qu'ils étaient quelque temps avant. Évidemment, parce que il y a les plus de 35 ans qui sont partis, puis il y en a qui sont partis avec les plus de 35 ans. Hein? Ce qui est totalement anti-biblique. Ou dans la Bible, vous avez des petits-enfants, vous avez des enfants, vous avez des jeunes gens, vous avez des pères dans la pensée spirituelle. Ça n'a aucun sens. Et ça n'est pas biblique. Et puis, ça tourne toujours mal, d'ailleurs. Donc, un jour, vous allez devoir vous exclure vous-même. Puisque, quel que soit votre âge aujourd'hui, vous aurez plus de 35 ans un jour. Il y a aussi des modèles qui sont trompeurs aujourd'hui. Ce monde dans lequel vous vivez, dans lequel je vis, tous les jours, qu'est-ce qui vous assène dans les journaux? Qu'est-ce qui vous assène à la radio, à la télévision? C'est l'instantané. La norme du temps n'est plus du tout une lente croissance de la plante, qui était la norme quand même biblique. Je me rappelle, quand j'étais petit, on m'avait dit, tu plantes des graines, puis il va pousser une plante. Puis je me rappelle, j'étais petit, alors ça c'est la marque de l'immaturité, bien sûr, je devais avoir l'âge de Matthieu, à peu près, 4-5 ans. On m'a expliqué. Et puis j'ai mis une graine, comme on m'avait dit de la mettre, puis on m'a dit, il faut l'arroser. Puis je l'ai arrosée. Quel n'a pas été mon dépit le lendemain matin de voir qu'il n'y avait pas de plante dans mon pot. Pourtant, j'avais tout fait juste. Ça, c'est la civilisation actuelle. C'est la mentalité du temps dans lequel on vit. Or, tout ce qui est création implique le temps. Il y a le cycle des saisons. On privilégie aussi. Et alors là, c'est encore plus subtil parce que ça se part d'oripeaux spirituels. On a l'air encore spirituel, alors qu'on est très stupide. C'est de privilégier en milieu chrétien, ce qui est à mon avis la marque d'une immaturité profonde, c'est le non préparé. Ah ouais, alors comprenez, c'est le Saint-Esprit. Alors moi je prépare jamais rien. Ah ben non, c'est les pas spirituels qui se préparent. Moi, je dis que ce sont des gens d'une impolitesse rare, parce que celui qui vient se présenter devant une assistance, à moins qu'il ait été conduit spécifiquement de cette manière, et à moins qu'il n'ait reçu une inspiration spécifique de l'esprit dans un cas donné, eh bien, à mon avis, il est un irrespectueux. Et d'ailleurs, dans ces églises-là, il n'y a généralement pas grand monde. Voilà, c'est encore un aspect que je voulais mentionner. Et puis, il y a encore un autre élément qui rend difficile de vivre ce que la Bible nous propose dans le Nouveau Testament, c'est l'absence du Père dans notre société actuelle. Beaucoup de spécialistes soulignent le danger que représente l'absence des Pères dans la société actuelle. Ça ne veut pas dire que le Père a forcément quitté le domicile conjugal, c'est souvent le cas, mais pas forcément. Mais vous pouvez avoir un Père de fait absent. Il est peut-être présent physiquement, mais les enfants, la famille ne le sent pas présent. Il ne tient pas sa place de pater familias. Alors, je ne parle pas d'autoritarisme, ni d'être un ogre autoritaire, etc. Non, c'est détestable. Mais je dis de tenir la place que Dieu lui a donnée. Et quand j'ai entendu, par exemple, « J'espère que ce pasteur est soumis au conseil », j'ai dit « Ah oui, vous trouvez ça où dans la Bible ?» Je trouve la soumission mutuelle les uns aux autres. Mais jamais qu'un conseil doit être soumis au pasteur, ni que le pasteur doit être soumis au conseil. D'ailleurs, l'autorité dans le Nouveau Testament, elle exerce primairement par les ministères. On n'aime pas entendre ça aujourd'hui. Ah non, ça va être la démocratie. La démocratie, vous savez, les moutons de Panurge, ils étaient tout à fait majoritaires, ils étaient même unanimes, ils se sont tous noyés. Autre point. Je constate un rapport, alors j'ai fait une petite allusion à trois éléments que j'appelle les difficultés contemporaines, donc l'adolescence perpétuelle, c'est-à-dire l'immaturité perpétuelle qui est érigée en modèle, des modèles qui sont trompeurs, deuxième point, spontanéité, alors c'est du n'importe quoi, et puis trois, l'absence du père, dramatique dans notre société d'aujourd'hui. Alors tout le monde a sa part de responsabilité, le féminisme y a sa part. À force de raboter les hommes, c'est vrai que les hommes démissionnent. Tu veux tout faire, ben fais tout. Et puis, il y a l'élément de la maturité spirituelle. Alors, nous ne vivons pas hors du temps parce que nous sommes chrétiens, ça c'est sûr. Et notre vie spirituelle est inconsciemment influencée par ce qui nous environne. Et aujourd'hui, il y a un premier élément que je relève, c'est ce que l'on a appelé le religieux sauvage. Nous sommes dans un climat de crise économique, politique, spirituelle, philosophique, et tout part dans tous les sens. Multitude de sectes, de mouvements. C'est pour ça que la Bible dit que la fin d'une chose ou la fin d'un homme vaut mieux que son commencement. On peut bien commencer, on peut mal finir. C'est vrai aussi qu'on peut parfois mal commencer et quand même bien finir par la grâce de Dieu, s'il y a la repentance par là-dedans. Alors ça, c'est bien. Et vous avez bien des chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur ce qu'on appelle le religieux sauvage, et qui part dans n'importe quelle direction, qui, alors, a certaines caractéristiques, jamais un mouvement ne les a toutes, mais par exemple, privilégier systématiquement les émotions. Oh, on sent quelque chose, vous sentez ? J'ai vécu un truc absolument invraisemblable, je vous le raconte. J'étais dans une salle, et puis, à un moment donné, l'orateur dit, l'esprit souffle, sentez-vous le souffle de l'esprit. Et effectivement, à mon grand étonnement, ben, il y avait un courant d'air. Toute l'assistance était suffoquée. Quelle puissance ! On sent l'esprit qui passe. Et vous auriez vu, c'est le cas de dire, le vent c'est extraordinaire, quoi. Enfin, c'était extraordinaire. Vous sentez ? Alors, tout le monde levait les bras. Moi, je me disais, mon pauvre ami, ouais, il y a un courant, mais d'où il vient ? D'où il vient ? Moi, je connais d'où il venait. La main, moi. Après, j'ai su. Concierge m'a dit. Alors, privilégier les émotions, la dépendance à certains leaders qui savent tellement bien faire rentrer les sous dans leur poche, d'ailleurs, en général, de ce côté-là, alors, ils n'ont pas beaucoup de spontanéité, ça revient très régulièrement, ce côté-là. Alors, l'effusion, l'imaginaire, vous êtes guéri. Taratata, il faut voir la proportion de ceux qui, la semaine suivante, vont tout aussi mal, sinon beaucoup plus. Et puis encore en plus avec une sacrée déception, puis qu'ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont l'air d'être des gogos. Il y a la relation en symbiose de certains mouvements spirituels où on se nourrit de l'immédiat. Ah moi vous comprenez frère, non, je ne m'engage dans aucune église, je vais là où le Seigneur me conduit. Maintenant totalement anti-biblique parce que le Seigneur te conduit à t'engager. C'est écrit dans la Bible. L'autorité c'est ce qui est écrit, c'est pas tes sentiments ou tes émotions. Et c'est ce que vous retrouvez dans tout l'enseignement chrétien. Dieu est médiatisé par l'écriture, la parole. Et ceci implique, c'est vrai, c'est beaucoup plus pénible que les sentiments puis l'air qui circulent, ou les prétendus miracles qui n'en sont souvent pas, parfois ils en sont, mais qui souvent n'en sont pas. C'est beaucoup plus facile qu'un long et patient apprentissage spirituel. C'est vrai qu'on est dans un temps où se donner de la peine, travailler sérieusement, persévérer, ce qui est la marque de la maturité, n'est pas du tout à la mode. Incapacité aussi à hiérarchiser les vérités et les valeurs, et prétendre que finalement tout se vaut à cause de la sincérité. Vous savez, si vous avez une bouteille d'acide chlorhydrique et puis que vous mettez une belle étiquette d'un bon vin dessus, l'acide chlorhydrique n'en demeurera pas moins de l'acide chlorhydrique, même si vous êtes parfaitement sincère quand vous buvez au goulot puis que vous croyez que c'est un bon Bordeaux. Le résultat, ça ne sera pas celui d'un Bordeaux. Alors, dans un ouvrage de Lawrence Crabb qui s'appelle « Approche biblique de la relation d'aide », il écrit que la maturité chrétienne comprend deux éléments principaux. L'obéissance immédiate, un. Et deux, la croissance à long terme de la personnalité. Et ce point de départ vers la maturité, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Et celui qui est justifié n'obéit plus pour être accepté de Dieu, mais parce qu'il a été accepté de Dieu, il va produire des œuvres. Il aura un comportement dont la finalité sera d'être approuvé de Dieu avant d'être approuvé des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut non plus systématiquement se mettre en pétard avec tout le monde. Eh ben non, Jésus n'était pas comme ça. Par exemple, aux disciples, il leur a dit « J'aurai des choses à vous dire, mais je ne vous les dis pas maintenant parce que vous ne pourriez pas les supporter. » Il avait ce tact de ne pas toujours tout dire n'importe où, n'importe quand. Parfois, il disait des choses qui faisaient beaucoup de bruit, ça c'est sûr. Ce n'est pas pour rien qu'il a été crucifié. Mais il savait aussi parler au cœur de ses auditeurs en conformité avec leur capacité de recevoir. Paul dit, je vous parle comme à des enfants parce que vous ne pourriez pas supporter la nourriture solide. Donc il y a aussi cette sagesse et cet équilibre. Alors je vais terminer avec quelques signes de maturité spirituelle. Alors je l'ai relevé déjà, donc je ne fais que mentionner ces points. La capacité de discerner entre ce qui est important et qui ne l'est pas, ou peu, entre le bien et le mal. Hébreux 5, 14 met l'accent sur la pratique de la vérité chrétienne et ses fruits. Il ne s'agit pas seulement de connaître des choses, il faut l'intérioriser et que ça se manifeste dans l'existence de tous les jours. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, dans le psaume 40 au verset 9. On peut connaître sa volonté et ne pas avoir tant de plaisir que ça à l'accomplir aussi, c'est vrai. Il y aura la capacité à obéir, d'après Colossiens 4, 12, qui est une marque de maturité. Bien sûr, obéir à Dieu. Mais il est certain aussi que la maturité va me rendre capable de fonctionner dans un ordre de soumission mutuelle avec mes frères et mes sœurs. Ça, ce sera aussi la maturité. Et elle est pour tous et à tous les niveaux. Capacité d'écoute, capacité de changer. Une église mûre est une église où chacun a sa place, sans que les rôles soient confondus. C'est aussi oser être différent dans l'église. Ce sera peut-être accepter que tel ou tel laisse transparaître une faiblesse ou une faille, et l'aimer quand même. D'ailleurs, Dieu nous aime inconditionnellement. Et nous sommes appelés aussi un amour, je crois, de ce caractère-là. Pour l'église, la capacité d'affronter la réalité et de traiter aussi de la globalité de l'être humain, aussi de ses problèmes affectifs et psychologiques. L'édification spirituelle est très fragile quand elle n'est qu'une construction artificielle, théorique, de versets bibliques et de concepts dans lesquels la réalité est constamment imaginée plutôt que reconnue. C'est comme ça que des communautés sont arrivées à des conduites infantiles. L'apôtre Jacques indique deux signes intéressants à la maturité. Le premier, c'est la persévérance. Vous remarquez, un petit enfant, il va vouloir tout de suite entreprendre quelque chose. Hein? Il est zélé, etc. Mais au bout de 20 minutes, il commence à en avoir marre de pêler. Hein? Eh oui, c'est un caractère de l'enfant. Mais le caractère de la maturité, ce sera d'achever ce que j'ai commencé. J'entends des fois cette réaction. Oh, si c'est comme ça. Alors, parce que quelqu'un a dit quelque chose qui déplaisait à quelqu'un d'autre dans l'église, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Parce qu'on leur a dit quelque chose qui leur a déplu, j'y mets plus les pieds. C'est exactement ce que le diable veut. Comme ça, vous devenez de parfaits instables, inutiles partout, parce qu'il est impossible de compter sur eux, et puis il est impossible de travailler à long terme. Et cela, je crois que c'est une conduite effectivement immature, mais qui est fréquente aujourd'hui, et qui est en relation avec l'esprit du temps. Mais on se pense très spirituel alors qu'on est simplement dans l'esprit du monde. C'est pas l'esprit de Dieu. Notre foi doit être incarnée, et notre étude de la Bible doit se faire en prise directe avec la réalité. C'est pour ça que j'aime beaucoup personnellement être concret. Je me méfie des constructions exclusivement théoriques où on plane sur la comète, gare à l'atterrissage un jour ou l'autre. Alors, la persévérance, je dirais, est un caractère de la maturité spirituelle. La vie spirituelle n'est pas une vie en dehors des réalités, c'est une vie produite par le Saint-Esprit et qui tient compte de l'ensemble de toutes choses. Je dirais encore un dernier point en rapport avec cela, puis je conclue tout à fait, c'est que le deuxième point, c'est ce que l'on appelle le danger fusionnel. Parce qu'on est une époque gourmande, regardez Loft Story, mais j'essaye de comprendre. Si vous ne comprenez pas les mécanismes de notre société, vous n'allez pas être efficace dans cette société. Vous serez dans votre bulle spirituelle, ce sera très bien, vous chanterez vos cantiques dans votre bocal, mais vous n'atteindrez pas ce que Dieu veut que vous atteigniez. Donc vous êtes complètement à côté de la carte. Comme les pharisiens l'étaient d'ailleurs aussi. Alors, le deuxième point, c'est ce que j'appelle le danger fusionnel. Parce que nous sommes dans une époque du Loft Story, gourmande d'émotions, d'effusions et de confusions, de leaders extraordinaires, mais qui sont des étoiles filantes. Parce que moi, je peux vous mentionner, j'ai quand même 57 ans, je me suis converti, voyons, un peu après 17 ans, j'ai quand même 40 ans de recul. Des étoiles filantes, les super, j'en ai vu une belle liste que je pourrais vous faire, dont plus personne ne se souvient aujourd'hui. Mais c'était les étoiles d'il y a 30 ans ou d'il y a 35 ans. Tout le monde courait, il y avait des foules. Taratata, qu'est-ce qui en reste aujourd'hui? Ce qui reste aujourd'hui, c'était le travail sérieux, approfondi, qui a tenu compte des fondements bibliques, qui a tenu compte des critères bibliques. Mais toute la mousse qui était soulevée par certains leaders, dont je pourrais donner les noms maintenant, on ne sait même plus où sont ces leaders, des fois ils sont même plus chrétiens aujourd'hui. Mais ils tiraient les foules il y a 30 ans ou il y a 25 ans. Alors nous sommes dans une époque qui est caractérisée par cela. Et je crois que nous devons prendre garde de ne pas tomber dans les travers de l'église de Corinthe, celle qui allait le plus mal de tout le Nouveau Testament probablement, en attribuant au Saint-Esprit ce qui ne sont que des pulsions psychologiques, phénomènes de masse, phénomènes de ceci et de cela, phénomènes émotionnels. Et puis c'est tout. Mais ayons l'honnêteté de le reconnaître. Alors moi, ce n'est pas une insulte. Vous avez le droit d'avoir vos émotions. Moi aussi, j'ai mes émotions. Merci Seigneur pour les émotions. Sinon, je serais un bout de bois. Mais alors, ne confondons pas tout. Et rappelons-nous que quand même, l'essentiel est encore ailleurs. Et c'est, je crois, l'étude profonde de la Bible et la réflexion qui vont permettre de hiérarchiser les valeurs et de ne pas se laisser aller à croire à toutes les bourdes, avaler toutes les couleuvres et à croire que tout est bon parce que c'est sincère apparemment. Et surtout à croire que tout ce qui marche est légitime. Oui, mais ça marche de combien de temps? Moi, il y a certains phénomènes contemporains, je peux vous dire, je leur donne encore 3 ans. Je sais que telle étoile filante, je vous le dis, je vous le parie, dans 5 ans, on n'en parle plus. Eh bien, je termine tout à fait. Nous devons tendre à cette maturité à laquelle l'Écriture nous appelle dans de nombreux textes. J'en ai mentionné quelques-uns, il y en a plusieurs autres. Et faisons preuve de discernement. N'oublions pas que l'appel à la maturité ne vise pas à faire de nous d'abord des pères ou des grands maîtres, mais déjà d'authentiques enfants de Dieu, des disciples de Christ, des servantes et des serviteurs de Dieu.
Merci pour votre écoute et si vous désirez commander le message que vous venez d'entendre, contactez votre radio locale.
Et Pain de Vie revient demain à 1h15 et à 4h15, c'est toutes les nuits dans la nuit autrement sur Phare FM, 1h15 et 4h15 pour ce rendez-vous qu'on aime. Notre prochain rendez-vous, c'est la parole du jour et le thème de ce lundi est de l'échec au succès. Et avant cela, de la musique, Rupanes avec Tiger Stripe Sky. J'espère que vous allez bien, encore bon réveil, excellente journée à vous, c'est Phare FM qui vous accompagne.
Pounce. Made a race through the dapple shadows. Light was pouring down upon the stepping stones. Felt like morning coming for his throne. I don't know why, but it looked like a tiger's dream sky. Well, half the world was pulling on his collars. His nights surrendered the day to the hours. Glow was coming down, coming down. I don't know why, but it felt like a tiger's striped sky. Well, tell me why I'm underneath the tiger's striped sky. Oh, tell me why I'm underneath. Tiger's striped sky. Tired of seeing adventures on a cafe wall. Think I'll take a turn from the known. Think I'll write a tale of my own. I'm going southbound to where the ocean's flirting with the coast.
dark sky. Oh, tell me why I'm underneath the dark eyes, dark sky. So I've been giving up my stripes, be painting with new colors, beginning with dove white. Oh, I've been giving up my stripes, painting with new colors, beginning with dove white.
Du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. 1 Samuel 17, verset 46. De l'échec au succès, partie 1. Bonjour à tous. Tous ceux qui ont réussi quelque chose d'important ont dû déjouer les pronostics. Pour beaucoup, le problème n'est pas la chance, mais le fait de se sous-estimer. Quelqu'un a dit : la plupart des gens pensent trop petit, vise trop bas et abandonne trop tôt. David avait peu de chances de vaincre Goliath. Sauf que David a mis sa foi en Dieu dans la balance. Il dit à Goliath : « Je te frapperai et je te couperai la tête. » Verset 46. Clairement, David visait haut. C'est ce qu'il faut faire quand il s'agit de suivre l'appel de Dieu. Les probabilités importent peu. Pas grave si on tombe en cours de route. On le fait tous en apprenant à marcher, non ? Maxwell Maltz a dit : vous êtes un champion de l'art de vivre si vous n'atteignez que 65% de vos objectifs. Si les probabilités indiquent que vous ferez beaucoup d'erreurs sur le chemin de la réussite, qu'il en soit ainsi. Tant que vous finissez par réussir, n'est-ce pas là l'essentiel ? Rappelez-vous que si vous ratez le départ, rien n'est jamais perdu. Tant que vous continuez à faire confiance à Dieu et à essayer, il vous viendra en aide. Jacques écrit : heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire. Jacques 1, verset 12. Paul a dit : ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Si vous croyez que Dieu veut votre réussite et que vous persévérez, vous passez de l'échec au succès.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, l'émotion partagée.
S'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à
à s'échapper.
Help myself, Gaëtan Roussel sur Phare FM, et c'est toujours la nuit autrement avec vous. Il est 5h10 passé et on va poursuivre notre programme. Ne manquez pas tout à l'heure Hommes et Femmes, mode d'emploi. Et tout de suite Ryan Ellis avec Never Surrender. Et si vous venez de me rejoindre, bienvenue. Vous écoutez La Nuit Autrement, on est encore ensemble pendant 10 petites minutes avant de retrouver Bonjour chez vous. Je vous souhaite un bon réveil, une excellente journée et en avance une très bonne semaine.
Mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Élever ses enfants, notre thématique du jour.
Première chose qu'on veut réaffirmer une fois de plus, c'est que
La sexualité a été voulue par Dieu, créée par Dieu, imaginée par Dieu pour le plaisir de ses enfants, dans le cadre du couple. Et en fait, comme on va le voir, ça démarre dès notre conception. Nous sommes des êtres sexués, et puis la sexualité vient se développer. Donc il n'y a pas, par nature, quelque chose de sale ou d'attaché au péché avec la sexualité. Satan n'est pas le créateur de la sexualité, il en est le destructeur. C'est Dieu qui en est l'auteur, il veut qu'on se réapproprie ce qui nous a été volé, d'où l'objectif de ce que l'on va partager. Mais avant qu'on aille plus loin, on voudrait lire quelques versets de la Bible pour introduire ensuite ce que Rachel va apporter. C'est dans le psaume 139, les versets 13 à 16. Voilà ce qu'il est écrit. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » C'est un psaume écrit par David. C'est David qui parle du fait que Dieu l'a créé et que Dieu l'a créé comme créature merveilleuse.
Mmh. C'est incroyable, en fait. La différenciation entre garçon et fille se fait à l'intérieur du ventre de la maman, bien sûr. Tout démarrage de la fécondation, et puis la petite morula va se mettre en place. Et très, très vite, en fait, la différenciation va se faire. Le stock d'ovules va être complètement prêt. Pendant la grossesse, en fait, la petite fille dans le ventre de sa maman va avoir tout le potentiel d'ovules qui va être préparé déjà. Quand ils vont naître, les bébés, pour les petits garçons, la première érection va arriver dans les 10 premières minutes de leur vie. Notre premier fils, il est sorti, on me l'a présenté, et slouk, il m'a fait pipi dessus. C'était le baptême de maman avec le pipi de mon fils. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une première érection, et après, hop, il a fait pipi. Et la première lubrification des lèvres de la petite fille vont se passer dans les premières 24 heures. Tout ça pour dire que Dieu a mis en nous, en fait, les mécanismes qui vont nous préparer à une sexualité. Ça se met en place, par étapes, tranquillement, dans la vie. Et c'est, nous, en tant que parents, notre rôle, c'est d'accompagner nos enfants à ce niveau-là.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
5h, dans 2 minutes, Bonjour chez vous va vous rejoindre. Et à 5h30, ce sera Innocent et l'émission Cocorico. Quant à moi, eh bien oui, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous rejoins cette nuit à minuit pour une nouvelle nuit autrement avec Phare FM. Et je vous laisse avec notre prochain titre, Open et le crayon du vieux. Je vous souhaite une excellente journée et en avance une très très bonne semaine. Merci de rester avec la radio autrement.
Il a dessiné le ciel au milieu un soleil. Il a colorié les mers, esquissé les rivières, oh non. Le crayon du vieux ne se trompe jamais. Du fusain des saisons, il a vive les couleurs. Il a tracé au crayon les battements de nos cœurs, oh non. Le crayon du vieux ne se trompe jamais, non jamais. Je donnerai tout pour peut-être enfin jeter un œil à son calepin, découvrir ce qu'il y a loin là-bas, loin, loin de ce dont on est certain. Il a pensé pour toi, tracé pour moi la terre comme un jardin. J'ai lu page après page, nous sommes l'idéal de ce dessin. On s'évade, on s'enfuit, on écrit notre destin. Alors viens, on s'évade, on s'enfuit, viens, on s'aime dans ce dessin. Il a pensé un enfant animé, son sourire. Il a d'un mouvement de main su gommer ses pleurs, oh non. Le crayon du vieux ne se trompe jamais, non jamais. Je donnerai tout pour peut-être enfin jeter un œil à son calepin, découvrir ce qu'il y a loin là-bas, loin, loin de ce dont on est certain. Il a pensé pour toi, tracé pour moi la terre comme un jardin. J'ai lu page après page, nous sommes l'idéal de ce dessin. On s'évade, on s'enfuit, on écrit notre destin. Alors viens, on s'évade, on s'enfuit, viens, on s'aime dans ce dessin.
terre comme un jardin. J'ai lu page après page, nous sommes l'idéal de ce dessin. Alors viens, on s'évade, on s'enfuit, on écrit notre destin. Alors